Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs fidèles auditeurs, merci de votre fidélité à l'écoute de Radio Vatican et bienvenue à cette nouvelle édition. Le pape François se rendra du 2 au 6 août à Lisbonne, au Portugal, pour prendre part aux Journées mondiales de la jeunesse. Le programme a été rendu public ce mardi 6 juin. Nous y reviendrons en détail après les titres. L'actualité de l'Église sur le continent africain concernera la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous nous rendrons entre autres au Nigeria, au Kenya pour l'actualité sociopolitique africaine. Vous trouverez également dans cette édition la rubrique sur la vie des chrétiens dans le monde et la prise des positions des évêques présentée par Marie-Josée Mwando. Voilà tout pour les titres, les détails dans quelques instants.
Radio Vatican, France et Afrique, Jacques Ngol.
Le programme officiel du voyage apostolique du pape François à Lisbonne, enfin dévoilé au Vatican ce mardi. Le Saint-Père se rendra dans la capitale portugaise du 2 au 6 août prochain à l'occasion de la 37e journée mondiale de la jeunesse. Un programme très riche pour le pape dont les rencontres ne se limiteront pas seulement à la jeunesse. Olivier Bonnel.
C'est d'abord, comme le veut la tradition, avec les plus hautes autorités politiques que le pape s'entretiendra. Son premier discours aura lieu le 2 août, peu après son arrivée au palais présidentiel de Belém. Le pape s'entretiendra ensuite avec le premier ministre portugais à l'annonciature apostolique. Une première journée qui s'achèvera par une rencontre avec les évêques, les personnes consacrées et les membres de la pastorale de l'église portugaise au magnifique monastère des Hiéronymites situé à l'embouchure du Tage. C'est le 3 août que le souverain pontife aura ses premières rencontres avec les jeunes, d'abord ceux du monde universitaire le matin, puis dans l'après-midi où il sera accueilli par les milliers de participants au JMJ au parc Eduardo VII, l'un des principaux sites de ces journées mondiales de la jeunesse. Le 5 août, comme le Vatican l'avait déjà annoncé, François est attendu au sanctuaire marial de Fatima où il rencontrera notamment des malades et priera avec eux le chapelet. Parmi les autres temps forts de ce voyage, le chemin de croix vendredi 4 août en fin d'après-midi avec les jeunes et la grande veillée des JMJ le samedi soir. Le Saint-Père qui célébrera enfin la grande messe finale de ces journées mondiales de la jeunesse dimanche matin 6 août dans le parc Tejo en face du Tage. Une messe à l'issue de laquelle il récitera la prière de l'Angélus.
La conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a, à l'issue de sa 123e assemblée plénière clôturée dimanche 4 juin, rendu public un document dans lequel elle a manifesté son inquiétude par rapport à la crise sociopolitique à la veille des élections locales. Les évêques ont appelé non seulement à l'apaisement, mais aussi à l'organisation des élections libres, transparentes, justes, crédibles, inclusives et paisibles. Le compte-rendu de Marcel Ariston Blé.
Dans ce message intitulé « La paix est notre bien commun à préserver » lu par Mgr Alain Clément Amiézi, évêque d'Odienné, au terme de la messe de clôture de la 123e assemblée plénière dans le diocèse d'Agboville, les archevêques et évêques catholiques ont invité la classe politique ivoirienne à éviter à la Côte d'Ivoire une autre guerre. À la veille des joutes électorales locales de septembre prochain, les prélats disent être inquiets de la montée de tensions dans les différents états-majors des partis politiques, mais aussi autour des institutions chargées de les organiser. Vu l'enjeu qu'elles constituent pour le pays, les évêques l'appréhendent comme un ballon d'essai pour l'élection présidentielle de 2025, car de leur point de vue, la plupart des partis politiques y sont engagés. Au nom donc de leur mission prophétique et interpellés par la situation de pré-campagne,
nous, vos archevêques et évêques, sentons comme un impérieux devoir d'appeler tous les fils et toutes les filles de notre pays à la retenue et à la modération.
S'il salue tous les efforts entrepris en faveur de la paix, ils font cependant le constat que cette paix demeure encore fragile et précaire dans la mesure où la paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, rappelant au besoin toutes les crises successives que le pays a connues au cours de ces dernières décennies 2002, 2011, 2020, qui selon eux ont laissé des plaies profondes qui ont du mal à cicatriser. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso, dans le cadre des activités marquant les 125e année d'évangélisation, les laïcs du diocèse de Kaya ont mené une semaine d'activités au chef-lieu du diocèse et dans les paroisses où la situation sécuritaire le permet encore. Paul Dapour, plus de précisions.
Du 29 mai au 4 juin 2023 a été commémorée dans le diocèse de Kaya la semaine diocésaine du laïcat, une activité qui entre dans le cadre du jubilé des 125 ans d'évangélisation du Burkina Faso et dont l'année 2023 est dédiée au laïcat. L'objectif, c'est de contribuer ainsi à la prise de conscience de la place et du rôle des laïcs aussi bien dans l'église familiale que dans la société. Pour cela, l'événement a été marqué dans les différentes paroisses du diocèse pour celles qui le peuvent, eu égard à la situation sécuritaire difficile actuelle. Plusieurs activités ont été menées par les laïcs pour marquer la semaine. Ainsi, à Kaya, les laïcs ont rendu visite à la communauté chrétienne de base Saint-Luc des Argongos, donné des vivres aux personnes déplacées internes, organisé une veillée de prière pour le retour de la paix dans le diocèse et dans le pays. En outre, une cérémonie d'hommage a été initiée pour reconnaître le service rendu par les premiers responsables des différents conseils des laïcs. Ce fut au podium de la paroisse cathédrale de Kaya en présence de l'abbé Bruno Ouedraogo, curé de la dite paroisse et représentant du Père évêque Mgr Théophile Naré le samedi 3 juin dernier. Des activités similaires ou autres encore ont été menées également dans les autres paroisses. Tout cela en vue de susciter chez les laïcs, dans le cadre de ce jubilé des 125 ans, une prise de conscience quant à leur place et à leur rôle dans la société et dans l'Église famille de Dieu. Paul Dawagadougou pour Radio Vatican.
Invité du jour.
Des rues barrées, des pneus brûlés, des saccages, des bureaux et des véhicules, des affrontements entre groupes de jeunes et forces de l'ordre. Le Sénégal a été le théâtre jeudi et vendredi dernier de scènes de violence qui a provoqué la mort de 16 personnes officiellement. À l'origine de cette colère, la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko, reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Si le calme est revenu, la tension demeure et les problèmes de fond ne sont pas résolus. Boubacar Malaba, consultant en communication et journaliste indépendant, revient sur ce qui est sous-jacent de ces émeutes.
Il y a un malaise politique parce que, je vous rappelle, en 2012, Ouad avait voulu se présenter pour un troisième mandat. Et le peuple sénégalais avait montré son refus du troisième mandat. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne sont pas pour un troisième mandat du président. Et dès que le président a été élu pour son deuxième mandat en 2019, l'opposition n'avait pour programme politique pas de troisième mandat. Avec toutes les difficultés que les Sénégalais rencontraient dans leur vie, pour l'opposition, la seule chose sur laquelle il fallait se battre, au lieu de se battre pour l'amélioration de la vie des Sénégalais, c'était juste le troisième mandat. Et donc, ça a été monté en épingle et ça a été aussi validé par le fait qu'à chaque fois qu'on a posé la question au président, est-ce qu'il allait se présenter pour un troisième mandat, et il a toujours esquivé la question. C'est clair que dans cette ambiance-là, ce troisième mandat focalise une partie de la crise. L'autre source aussi, c'est juste sortie du Covid, on a eu quoi? On a eu une augmentation des prix et donc une grande frange de la population s'est encore plus paupérisée après le Covid. Et donc, si vous mélangez un petit peu tout ça, vous avez un cocktail explosif et la mèche a été allumée par Sonko.
Est-ce que Macky Sall, à son tour, pourrait utiliser ces événements ou utilise-t-il déjà ces événements pour entretenir en tout cas le doute ou ses soutiens?
Pour le président Macky Sall, tout ce qu'on peut faire, c'est des spéculations. Le seul qui sait exactement ce qu'il veut, c'est lui. Par contre, ce qu'on peut quand même concevoir quand on connaît la réalité politique au Sénégal, c'est qu'à partir du moment où le président de la République dit qu'il n'est pas candidat, il perd le contrôle non seulement sur son parti, il perd le contrôle sur le gouvernement, il va perdre le contrôle sur le pays parce qu'on va automatiquement se mettre en campagne électorale. S'il avait dit ça il y a 2 ou 3 ans, ben ça fait 2 ou 3 ans que le Sénégal aurait été en campagne électorale.
Est-ce qu'il y a des personnes, des organisations, des secteurs de la société civile qui peuvent jouer le rôle de modérateur dans la crise qui s'est installée ces derniers jours?
Ça serait peut-être les confréries religieuses qui sont assez puissantes au Sénégal et qui ont eu récemment à poser des actes qui ont permis de calmer un petit peu la situation sur certains actes. Mais eux aussi, aujourd'hui, leur influence est en baisse parce que les populations disent « oui, vous vous occupez du spirituel, mais le temporel, vous nous le laissez ». Et il est arrivé aussi que des responsables religieux ont versé dans la politique, ce qui, quelque part, décrédibilise un petit peu le côté au-dessus de la mêlée. Vous avez des acteurs de la société civile Mais, vous savez, il y a une sorte de dictature qui s'installe au niveau des souteneurs de l'opposition. Si vous prononcez, dites quoi que ce soit contre Sonko, vous avez forte chance de vous retrouver insulté dans les réseaux sociaux. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on vous violente ou on brûle votre voiture. Aujourd'hui, on en est à cela, hein. C'est très négatif. On ne peut plus aujourd'hui débattre sereinement. Parce que dès que vous dites quelque chose contre Sonko, automatiquement, vous êtes voué aux gémonies. Mais bon, beaucoup d'acteurs de la société civile se sont retrouvés à tenir des propos qui étaient plus des propos politiques. Et puis vous avez des ONG comme Amnesty International qui sont plus pour le laisser faire en disant, bon, les gens doivent pouvoir manifester devant le palais présidentiel, mais s'il y a des problèmes, s'il y a des personnes qui essaient de rentrer à l'intérieur du palais présidentiel, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah oui, mais bon, non, il y a ces ONG-là qui aujourd'hui posent plus de problèmes que de solutions. Ils ne sont pas dans l'apaisement, mais ils sont dans l'accusation, ce qui n'est pas du tout ce que l'on recherche aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu difficile de trouver des acteurs totalement neutres, en tout cas perçus comme neutres par les différents acteurs politiques.
Interrogé par Xavier Sartre, Boubacar Malaba, consultant en communication et journaliste indépendant, était l'invité de Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Ouvrons à présent la page de l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Plusieurs soldats nigériens ont été tués dans une attaque suicide revendiquée par la branche ouest-africaine du groupe État islamique au cours d'intenses combats dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris mardi auprès des trois sources sécuritaires. Des militaires nigériens sont tombés vendredi après-midi dans une embuscade tendue par des membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, près du village de Metele dans l'état du Borno, ont affirmé les sources. La police kényane a tiré mardi des gaz lacrymogènes et arrêté 11 manifestants lors d'une marche à Nairobi contre un projet de loi de finances qui instaure de nombreuses nouvelles taxes. Le texte qui doit être discuté cette semaine au Parlement prévoit que ces nouvelles taxes, notamment sur les produits de beauté, des carburants ou les crypto-monnaies, rapporteront 289 milliards de shillings, soit 2 milliards d'euros pour abonder le budget de 3 600 milliards de shillings, soit 24 milliards d'euros, prévus pour 2023-2024. Abat la loi des finances, a scandé la centaine de manifestants qui marchaient vers le Parlement depuis le centre-ville de Nairobi. Ils veulent nous faire mourir de faim, ont-ils également lancé. Un maître coranique sénégalais soupçonné d'avoir violé 27 de ses écolières à Touba a été arrêté lundi dans cette ville du centre du pays après plusieurs semaines de fuite, a indiqué un responsable policier. Le violeur présumé a été arrêté aujourd'hui après s'être présenté lui-même à la police. Après un interrogatoire, il a été mis à la disposition de la gendarmerie. Il était en cavale depuis plusieurs semaines, a dit ce responsable de la police de Touba, confirmant une information de la presse locale. Touba est une ville considérée comme sainte par les mourides, une importante confrérie religieuse musulmane au Sénégal. Une équipe scientifique menée par le paléontologue mondialement connu Les Bergers affirme lundi avoir mis au jour en Afrique du Sud les plus anciennes tombes de la préhistoire découvertes. Une trouvaille qui repousserait d'au moins 100 000 ans les premières traces des pratiques mortuaires. Il s'agit des inhumations les plus anciennes jamais enregistrées chez les hominidés antérieurs d'au moins 100 000 ans aux inhumations d'Homo sapiens, affirme les scientifiques dans une série d'articles en preprint qui doivent encore être revus par des pairs avant publication dans le journal scientifique et Life. Avant de boucler cette émission, nous donnons la parole à Marie-Josée Mwando pour la rubrique sur la vie des chrétiens dans le monde et prise des positions des évêques.
Commençons la page sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde par l'Ukraine. Le cardinal Matteo Maria Zuppi s'est rendu à Kiev en tant qu'envoyé du pape les 5 et 6 juin. L'archevêque de Bologne et président de la conférence épiscopale italienne avait pour mission d'écouter les autorités ukrainiennes sur les moyens possibles de parvenir à une paix durable et de soutenir les gestes d'humanité qui contribuent à apaiser les tensions. Le président de la communauté Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, consulteur au dicaster pontifical pour les laïcs, la famille et la vie, nous en fait le point.
Il s'agit dans cette mission, si j'ai bien compris, pas d'une mission de médiation de paix absolument, mais d'écoute de la réalité, une mission humanitaire. Et nous sommes au début d'une mission d'écoute de la réalité, des problèmes, et donc il faut avoir beaucoup de patience, il faut penser qu'il sert du temps. Aussi, c'est vraiment dommage qu'il y a une situation catastrophique du point de vue humanitaire à l'intérieur du pays. J'ai parlé avec Zuppi l'autre jour quand il est passé à la messe de la communauté avant de partir. Il m'a seulement demandé de prier beaucoup. Il pense que la prière sera la force la plus nécessaire dans ce moment pour sa mission.
Propos recueillis par Olivier Bonnel. En Suisse, le pèlerinage au sein d'Afrique a célébré sa 23e édition qui s'est déroulée le dimanche 4 juin à Saint-Maurice. Elle s'est penchée sur le processus synodal. Environ 300 personnes y ont célébré le principe de l'unité dans la diversité. Ce pèlerinage dédié aux saints et saintes d'Afrique a été lancé en 2002 par les missionnaires d'Afrique Père Blanc de Suisse. La manifestation a traditionnellement lieu à Saint-Maurice en Valais le premier dimanche de juin, date de commémoration des martyrs de l'Ouganda. Le père Claude Maillard, membre du comité de l'Association du pèlerinage au sein d'Afrique, affirme que le message du processus synodal a été bien entendu. Le père Maillard a introduit le thème de la journée sur les avancées du processus synodal, la diversité des situations historiques et une richesse pour toutes les églises. Monseigneur Pierre Farine, évêque auxiliaire émérite de Lausanne, Genève et Fribourg, a présidé l'Eucharistie. Durant la messe, commentant les textes du dimanche, Monseigneur Farine a évoqué l'importance du message chrétien. La Sainte Trinité n'est pas une abstraction dans les nuages, c'est une réalité d'amour au plus intime de notre cœur. Face à la crise climatique mondiale, l'humanité doit affronter la grande tâche de ce que l'on appelle la neutralité carbone, définie en climatologie comme l'état d'équilibre entre les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et leur élimination de l'atmosphère, c'est-à-dire la condition de zéro émission nette de CO2. La question ne laisse pas indifférente la communauté catholique de Corée du Sud qui a pris au sérieux l'encyclique Laudato Si du pape François. À cette fin, la Commission pour l'environnement et l'écologie au sein de la Conférence des évêques de Corée a organisé le 5 juin une journée d'études intitulée « La neutralité carbone de l'Église catholique coréenne » accueillie par le diocèse d'Incheon. Comme le Japon, la Corée du Sud, quatrième économie d'Asie, a annoncé dès 2020 son intention d'atteindre la neutralité carbone en tant que nation d'ici 2050. L'esclavage pour dette toucherait encore 2,3 millions de personnes au Pakistan, soit 1,13% de la population du pays. Dans la province du Punjab, le père Emmanuel Parvez lutte pour arracher les esclaves à leurs conditions. De nombreuses familles chrétiennes sont prises au piège du travail esclave dans l'industrie de la brique qui parsème la campagne du Punjab pakistanais. Elles sont emprisonnées à cause de la pratique du peshgi, une avance sur salaire que le travailleur reçoit de son employeur. Cette dette grevée d'un fort intérêt s'accumule et crée un système de dépendance qui devient une forme acceptée et légalisée d'esclavage moderne. Tenter de libérer ses esclaves fait partie des engagements du père Emmanuel Parvez, 72 ans, curé de Pansara, une ville du diocèse de Faisalabad. En parcourant la campagne de sa paroisse, il rencontre constamment ces familles qui n'ont personne vers qui se tourner et sont condamnées à vie. Ces familles entières, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées, sont livrées à des maîtres qui gèrent la main-d'œuvre selon des critères d'exploitation maximale et maintiennent les travailleurs dans des conditions inhumaines, explique le père Emmanuel.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et voilà, mesdames et messieurs fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.